Une semaine d'actualité. Pierre-Edouard Deldic.
Bonjour, ravi de vous retrouver. Merci à Daniel Grillon d'avoir tenu la barre durant tout le mois d'août avec brio. Une semaine d'actualité donc, une émission que vous pouvez podcaster sur le site de la radio, vous le savez, www.rfi.fr. Ce samedi, nous allons partir pour l'Europe centrale et parler des réfugiés. Rendez-vous avec l'actualité africaine et vos messages après le flash. Mais c'est surtout l'Asie qui va être au cœur de cette session avec une partie de l'équipe d'un tout nouveau site d'information sur ce continent, Asialiste. Dans ce studio, il y a donc Joris Zilberman, qui en est le directeur de la publication et rédacteur en chef. Bonjour Joris.
Bonjour.
Et un journaliste que vous qui m'écoutez en ce moment même connaissez bien, Stéphane Lagarde, grand reporter à RFI, spécialiste de l'Asie, lui aussi ancien correspondant de la radio à Pékin. Bonjour Stéphane.
Bonjour, bonjour à tous.
Alors c'est un pari que vous avez lancé, Joris, en créant ce site il y a quelques mois seulement.
Absolument, on a mis en ligne asialiste.com le 4 mai dernier, donc ça fait presque...
Ah oui, c'est tout récent.
C'est tout jeune, tout récent. C'est un pari, mais c'est un pari qui essaie de tirer les leçons de toutes les tentatives de créer des médias dédiés à l'Asie. Et nous, notre spécificité, c'est de créer un média 100% numérique, donc pure player, comme on dit en bon français, sur l'Asie. Évidemment, on s'inscrit dans l'héritage de Feu, la Far Eastern Economic Review, ce grand magazine anglophone qui
avait... La barre est placée haute.
La barre est placée haute, mais en réalité, ce que les gens cherchent aujourd'hui, c'est pas de l'actualité, du hard news qu'on trouve gratuitement sur Internet, c'est vraiment de la qualité. Et c'est notre projet. Quand on nous demande qu'est-ce que c'est Asialiste, c'est un média qui réunit des journalistes spécialisés sur l'Asie, qui sont encore correspondants, qui ont été correspondants avec des experts de l'Asie. Et nous, Asialiste, à travers ce média, on va connecter les passionnés de l'Asie, les professionnels qui travaillent en Asie, qui veulent aller en Asie, qui travaillent avec l'Asie, avec des Chinois, des investisseurs chinois en France ou en Afrique, eh bien, nous les connectons avec cette communauté, ce réseau de journalistes spécialisés sur l'Asie et d'experts.
Stéphane ?
On est parti d'un constat, tout simplement, que l'offre qui était donnée dans les médias français, notamment sur l'Asie, n'était pas suffisante. On voulait voir plus sur l'Asie, et surtout une Asie qu'on connaît. La plupart des membres d'Asialiste, des cofondateurs, ou même des gens qui travaillent, des correspondants, par exemple Sébastien Farcy, qui est à côté de moi.
Nous, je vous salue, d'ailleurs.
Sébastien Farcy, ouais. Sont des correspondants en Asie, en Inde, pour le coup, pour RFI, qui nous ont rejoints. Et on voulait voir vraiment cette Asie-là, qu'on trouve peu ailleurs. On n'entend pas dans les médias mainstream, notamment. On l'entend sur RFI, souvent, mais pas sur d'autres médias. Voilà ce qu'on a cherché à faire. C'est entendre ces témoins, ces hommes d'affaires qui vivent là-bas, ces journalistes, ces experts qui travaillent sur le terrain.
Et d'ailleurs, en regardant Sébastien Farcy, je m'interroge et je vous demande une réponse, savoir ce qu'on comprend par Asie, en fait. Parce que l'Asie, vue de Paris, c'est vaste. Et c'est à la fois, c'est vaste et confus.
Absolument. Donc, dans l'esprit des gens, l'Asie, c'est souvent l'Asie orientale. C'est-à-dire l'Asie du Nord-Est, Chine, Corée, Japon, le monde chinois, et l'Asie du Sud-Est, jusqu'à Thaïlande, Birmanie. Nous, justement, et c'est ce qu'on essaye de monter avec Sébastien, qui est notre correspondant, entre autres, à New Delhi, c'est l'Asie de Tokyo à Islamabad, c'est-à-dire avec en plus l'Asie du Sud. Évidemment, on a un autre projet qui est influencé par la géopolitique et par toutes les démarches du président chinois Xi Jinping, avec la résurrection de la route de la soie, des routes de la soie, je devrais dire, parce qu'il y a énormément de faisceaux qui veulent partir de la Chine jusqu'à Duisbourg, mais en passant par l'Asie centrale. Et donc, grâce à notre correspondante au Pakistan, à Islamabad, Sylvie Lasserre, qui nous encourage à développer petit à petit une page Asie centrale.
Alors Joris, Stéphane, nous allons commencer notre tour du monde, c'est la tradition, c'est la mission de cette émission, en parlant de la photo qui a ému l'Europe jeudi, photo d'un enfant, Aylan, mort sur une plage de Turquie, c'est un cliché, il faut dire, insoutenable. Notre correspondant en Turquie, Jérôme Bastion, a interrogé son auteur, écoutez-la.
C'était le matin, nous suivions un groupe de Pakistanais en train de prendre la mer. Quand non loin, nous avons remarqué ces corps. Puis en s'approchant, nous nous sommes rendus compte que c'était des corps d'enfants. C'est le corps du petit Syrien, Elan, 3 ans, que nous avons vu en premier. Quand nous avons compris qu'il n'y avait plus rien d'autre à faire, j'ai pris la photo de ce petit corps sans vie avec son t-shirt rouge, son short bleu marine et ses chaussures aux pieds. Ensuite, en nous éloignant, nous avons trouvé le corps de son frère, Galip, allongé sur la plage, lui aussi habillé. Et encore plus loin, il y avait le corps du 3e frère, Tahara. Ils n'avaient rien sur eux qui puisse les maintenir à la surface de la mer, ni gilet de sauvetage, ni brassière, ni bouée. Ce qui augmente encore le drame qu'ils ont vécu. J'avais déjà dans mon appareil de nombreux clichés de ces corps qui témoignent de leur drame.
Jours dans le monde.
Une semaine d'actualité, donc. Merci de votre fidélité. Joris Zilberman, Stéphane Lagarde, direction l'Asie, donc. Et Pékin, où jeudi, sur la place Tiananmen, a eu lieu un gigantesque défilé pour célébrer les 70 ans de la fin de ce que les autorités appellent la guerre de résistance contre l'agression japonaise. Pékin, Heike Schmidt.
Chants patriotiques donnent le coup d'envoi de cette commémoration que Pékin veut historique. Du haut de la porte de la paix céleste, le président Xi Jinping célèbre la victoire chinoise sur le Japon.
Ce grand triomphe a rétabli la Chine comme un grand pays dans le monde et nous a apporté le respect de toutes les nations qui aiment la paix. Ce grand triomphe a ouvert de grandes perspectives pour le renouveau de la nation chinoise. Il a fait renaître notre pays ancien.
Les couleurs de l'immense portrait de Mao ont été rafraîchies pour l'occasion. Mao, qui ici même a annoncé la naissance de la Chine populaire en 1949. Aujourd'hui, 66 ans après, c'est encore le Parti communiste qui affirme son pouvoir.
Nous avançons sous l'égide du Parti communiste de Chine. Nous poursuivons notre chemin du socialisme aux caractéristiques chinoises. Nous avançons comme un seul homme pour réaliser nos objectifs. La justice dominera. La paix dominera, le peuple dominera.
40 000 personnes assistent à cette mise en scène imposante. Toutes sont triées sur le volet. La place Tiananmen est totalement bouclée par la police. Heike Schmidt, Pékin, RFI.
Suite d'une semaine d'actualité, nous parlons, vous l'avez compris, beaucoup de l'Asie. Nous sommes en compagnie de Joris Zilberman et de Stéphane Lagarde. Stéphane, un mot sur le cliché d'abord, cette photo qui, je le disais, a fait le tour de l'Europe, mais pas seulement.
Oui, l'émotion est partout. Évidemment, les frontières sont poreuses hein, pour l'émotion. Tous les jours, Asialis, si vous allez sur le site, propose une revue de presse de l'Asie, des journaux d'Asie. Et dans tous les journaux ce matin, le Bangkok Post, The Straits Times à Singapour ou ailleurs, en Malaisie aussi, il y avait cette photo vraiment partout à la une.
Alors, ce qui pose la question, d'ailleurs, je vous la pose, Stéphane, ou à Joris, est-ce qu'il fallait ou non la publier? C'est un grand débat hein, qui agite les rédactions à Paris, simplement, singulièrement, parce que les Français, jeudi, ont été les seuls à ne pas publier la photo, à part Le Monde, jeudi après-midi.
C'est un choix qui est tranché très différemment dans le monde anglo-saxon, dans le monde asiatique et dans le monde francophone. Les anglo-saxons, évidemment, vont la publier. J'écoutais aussi l'auteur de la photo qui lui-même disait « Moi, je prends jamais ce genre de photo. » Mais là, j'ai fait une exception. Mmh. Et j'espère que ça va faire quelque chose. Et j'écoutais aussi les dirigeants du World Press Photo qui se voyaient reprocher justement de faire l'éloge de ce genre de photo sensationnaliste. Enfin, que certains accusent d'être sensationnalistes, ils disent « Oui, mais le but dans l'histoire, est-ce que c'est pas que la photo joue un rôle social aussi ?» Et pour nous, Asialis, c'est important parce qu'en parallèle de la crise migratoire en Europe, il y a une crise migratoire en Asie qui est extrêmement importante.
Ah, il faut le signaler aussi, oui.
Absolument. Il y a un bateau plein de migrants qui a échoué, des gens qui sont morts au large de la Malaisie. Oui. Il y a une crise extrêmement aiguë avant nos grandes vacances à nous, cette crise continue, on en parle moins.
Entre la Birmanie, le Sri Lanka, enfin la Thaïlande, hein, ce qu'on appelle la mer d'Andaman, eh ben c'est pareil que la mer Méditerranée. Il y a des milliers, enfin des centaines de réfugiés qui parfois meurent sur ces embarcations de fortune.
Et donc, pour rebondir sur ce que dit Stéphane, ce sont des réfugiés Rohingyas qui connaissent le même sort que les réfugiés syriens. Il n'y a pas de photos qui montrent des gens qui sont morts, mais pourtant ils meurent là-bas. Donc, on est concerné aussi par ce genre de débat et on en aura aussi des débats comme ça, Asialiste, évidemment.
Alors, on va reparler des migrants en Europe dans un instant, mais je voudrais qu'on s'arrête à Pékin, à ce qui s'est passé jeudi, à ce grand défilé. Tout le monde a remarqué la puissance qui émanait de cette manifestation.
Mais c'est une manifestation qui commémorait la paix, c'est-à-dire la capitulation, une commémoration de victoire donc de la Chine sur le Japon, parce que la Chine, et d'ailleurs il y a des études qui sont pas chinoises, qui sont occidentales, qui peuvent dire que les Chinois, les soldats chinois ont aussi contribué à la victoire des alliés. Certains parlent de cette expression l'allié oublié que serait la Chine. Le paradoxe de cette commémoration, c'est que elle a été voulue par le président chinois Xi Jinping comme une démonstration de force nationaliste, où là, il y a énormément de messages. Elle était extrêmement polysémique, cette commémoration.
RFI.
Suite donc d'une semaine d'actualité, Joris, Stéphane, et il nous faut donc revenir sur l'afflux de migrants en Europe via la Hongrie, notamment la Hongrie qui érige, on le sait, un mur. Rappelons que depuis le début de l'année, rien que depuis le début de l'année, plus de 360 000 personnes sont arrivées sur le continent. Ces derniers jours, les réfugiés ont tenté de gagner l'Allemagne via le train de Budapest surtout, mais aussi de Vienne en Autriche. Correspondance de Blaise Gauguin.
Un groupe d'une centaine de jeunes Afghans arrive tout à coup en masse dans la gare. Ils veulent sauter dans le train de 14h30 qui part pour Munich. Ils sont tous à Vienne depuis plusieurs jours déjà, mais ils veulent profiter du chaos actuel pour quitter à leur tour facilement l'Autriche. C'est le cas de Yamanta Zager, il a 20 ans et il est originaire de Jalalabad.
On veut aller en Allemagne parce que l'Allemagne nous accepte. On est sur les routes depuis un mois, c'est très dur. La frontière la plus dure à passer, c'était en Bulgarie. On y a passé 24 heures. Pas d'eau, pas de nourriture. Tu marches. Rien, juste marcher toujours tout droit. Marcher sans avoir rien à manger.
La compagnie des chemins de fer a déployé des dizaines de salariés d'origine étrangère, des salariés qui guident les migrants dans leur langue maternelle. C'est le cas de Khalid Fassid. Il est né au Maroc et il est chargé de mettre les réfugiés dans le bon train.
Aujourd'hui, je traduis en arabe parce qu'il y a beaucoup de réfugiés dans ces rues et parlons arabe.
Les migrants n'achètent pas de tickets. De toute façon, il n'y a pas de contrôle. Après tout ce qu'ils ont vécu, ils rient de la facilité avec laquelle ils vont enfin pouvoir maintenant gagner leur Eldorado, le pays de Mama Merkel, comme beaucoup de migrants surnomment désormais la chancelière allemande.
Alors justement, on le sait, l'Allemagne va accueillir 800 000 migrants. C'est tout un pays qui, semble-t-il, est sensibilisé, comme on dit, par cette question. Écoutez ce reportage à Berlin de notre correspondant Pascal Thibault.
Les Allemands sont vraiment de bonnes personnes. Ils nous aident. Je suis vraiment heureuse d'être ici. Toute la tristesse d'autrefois a disparu et je peux construire ma vie.
La jeune Afghane est arrivée récemment à Berlin. Elle vit avec 500 autres réfugiés dans une ancienne mairie d'arrondissement transformée dans l'urgence en foyer. La solidarité qu'elle évoque chez les bénévoles allemands est confirmée par Tania qui travaille sur place pour une association caritative.
Les gens sont très engagés, parfois très émotionnels. Ils veulent absolument aider.
Pour certains, la biographie personnelle joue un rôle, comme l'explique Annegret Hansen, élue d'arrondissement du SPD et bénévole.
Nous avons aussi des bénévoles âgés qui ont dû fuir après la guerre et qui veulent offrir à d'autres ce qu'ils ont reçu à l'époque.
Michael est plus jeune, mais tout aussi engagé.
Je pense que c'est pas assez de payer les taxes et de donner l'argent. Ça vaut mieux si on aide avec la main propre. Mais maintenant, je fais 3 heures de soutien pour le trier avec moi.
Les organisations caritatives le confirment. Jamais l'engagement bénévole pour des réfugiés n'a été aussi important en Allemagne.
Une semaine d'actualité.
Alors l'actualité internationale, c'est aussi la poursuite de la crise des ordures et des manifestations contre le gouvernement au Liban. Crise de défiance en fait contre la classe politique libanaise. Notez aussi qu'un juge guatémaltèque a émis un ordre de détention provisoire contre l'ex-président du Guatemala, Otto Pérez, qui a démissionné jeudi à la suite d'accusations de corruption. Suite d'une semaine d'actualité, nous repartons pour l'Asie avec vous Stéphane Lagarde, qui nous avait parlé mercredi d'un autre grand défilé, défilé à Hanoï, celui-ci au Vietnam. Le président vietnamien a mis en garde contre les menaces actuelles pesant sur l'indépendance du pays, désignant évidemment la Chine à l'occasion du 70e anniversaire de l'indépendance de l'ancienne colonie française.
Aucun équipement militaire, contrairement à Pékin, mais la grande parade d'Hanoï ce mercredi reste aussi une démonstration de force et de fidélité au Parti communiste vietnamien. Officiellement, 30 000 personnes armées, police, anciens combattants ont défilé sur l'immense place d'Abin. Discours du chef de l'État au son du canon, le président Truong Tan Sang, qui pointe du doigt la Chine comme menace à la souveraineté du Vietnam.
Notre pays connaît de grandes opportunités, en même temps qu'il fait face à des défis importants. La situation mondiale et régionale évolue rapidement et d'une façon imprévisible. Les querelles dans les îles de la mer de Chine méridionale s'intensifient chaque jour davantage, et les manœuvres des forces hostiles visant à renverser notre régime menacent directement la paix, la stabilité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de notre pays.
Dispute en mer de Chine du Sud. En mai l'année dernière, une confrontation entre les marines vietnamiennes et chinoises a eu un fort écho dans la population. Une manifestation anti-chinoise d'une vingtaine de milliers d'ouvriers vietnamiens a notamment dégénéré en scène de pillage.
Alors ça, c'était Stéphane Lagarde mercredi. On a Stéphane Lagarde dans ce studio, dans cette émission. Vous vouliez rajouter quelque chose?
Oui, un sujet du service vietnamien, de RFI surtout. C'est tout à fait asialiste ça. C'est la complexité de l'Asie, le Vietnam, la Chine, ancien allié, puis après qui se sont fait la guerre quand même. Et là aujourd'hui, le président vietnamien qui a très peur de la Chine, très peur de la Chine, qui convoite toute la mer de Chine du Sud. Donc voilà, c'est très complexe et c'est ce qu'on développe justement dans Asialiste.
Alors Joris Zilberman, vous avez consacré d'ailleurs un papier récemment, ces jours-ci, aux relations entre le Vietnam et les États-Unis, relations qui sont en train de changer profondément.
Absolument. C'est notre correspondant à Hanoï, qui est Vo Truong Dong, si je prononce bien, qui a écrit ce papier. C'est totalement lié à ce que pouvait dire Stéphane dans son papier, c'est-à-dire que les Vietnamiens sont extraordinairement dépendants économiquement de la Chine et en même temps, ils sont en pleine querelle avec la Chine sur les revendications sur les îles Paracels. Ils ont besoin des Américains. Et là, le numéro 1 du Parti communiste vietnamien a été reçu dans le bureau ovale de la Maison Blanche il y a quelques semaines. Oui. Donc c'était une visite qui a été qualifiée d'historique. Alors, il y a plusieurs façons de voir les choses. D'un côté, le Vietnam cherchait une reconnaissance, surtout le Parti communiste vietnamien cherchait une reconnaissance. Or, on dit que le Vietnam n'a pas du tout ni convaincu Obama de lever entièrement l'embargo sur la vente d'armes américaines létales au Vietnam, d'un côté, et les Vietnamiens n'ont pas rapporté de contrat d'armement pour faire contrepoids avec la Chine. Mais en tout cas, il y a une tectonique des plaques en Asie, et c'est ça qu'on veut décrire sur Asialiste.
Alors, il y avait un autre sujet lié à ces manifestations, à cette grande parade, entre guillemets, à Pékin. Il y avait la réaction aussi de Frédéric, traité par Frédéric Charles sur notre antenne, à RFI, du Japon face à ça, face à ce déploiement de force chinois, Stéphane Lagarde.
Effectivement, le Japon, là, les frères ennemis. Hein, parmi les dirigeants qui n'étaient pas là, on a noté surtout l'absence de Shinzo Abe. Il y avait plus d'une trentaine de dirigeants, si je ne me trompe pas, beaucoup, évidemment, peu d'occidentaux qui n'étaient pas représentés, mais les amis de la Chine étaient là et il n'y avait pas le Japon, qui sont toujours, on l'a vu, le Japon qui essaye de s'allier maintenant avec le Vietnam, justement, avec les Philippines. Il y a tout un tas de réseaux qui se construisent, qui se déconstruisent, c'est ça qui est passionnant.
Et il y avait aussi des critiques émises au Japon sur la présence à Pékin de Ban Ki-moon, le Sud-Coréen Ban Ki-moon.
Mais absolument.
Enfin, le patron de l'ONU, le secrétaire général de l'ONU, il faut le rappeler.
Mais bien sûr, parce que le geste de Ban Ki-moon qui est venu, lui, participer à ces célébrations, a été perçu comme il se joint finalement à tous ces leaders qui penchent vers la Chine. Oui. Et pareil, la présidente sud-coréenne Park Jong-un, qui elle aussi, en plus, elle s'est montrée, elle était dans la photo côte à côte, aux côtés de Xi Jinping, le président chinois au milieu, et de Vladimir Poutine de l'autre côté, une image extrêmement forte. Alors elle a été accusée évidemment de devenir pro-chinoise et anti-américaine, alors que elle, et là je vais passer la parole à Stéphane qui connaît mieux que moi, juste pour terminer, elle disait, on veut sécuriser l'appui chinois sur la question de la crise nord-coréenne.
Complexité aussi dans les pays, grand débat évidemment en Corée du Sud sur la présence de la présidente aux côtés de Xi Jinping.
Stéphane, Joris, nous allons marquer une pause et nous retrouver dans 3 minutes après un point sur l'actualité de ces dernières heures. À tout de suite. Et pour toutes ces informations, retour à notre revue de 7 jours d'événements avec la rédaction.
Une semaine d'actualité, Pierre-Edouard Deldic.
Nous sommes cette semaine en compagnie d'une partie, d'une toute petite partie de l'équipe du nouveau site d'information Asialist, Joris Zilberman et Stéphane Lagarde. Dans un instant, nous partirons pour l'Afrique. Rendez-vous avec vos messages, bien sûr. Mais d'abord, revenons sur les manifestations d'agriculteurs jeudi à Paris, France, et sur leur déception aussi. Patricia Lecomte.
Après la réunion avec les ministres, Xavier Belin, le président de la FNSEA, est venu place de la Nation présenter aux agriculteurs les mesures d'aide. Mais très vite, certains d'entre eux déchantent et interpelle vivement Xavier Belin qui peine à terminer sa présentation. Il voulait des allègements de charges et des prix contenus. Les esprits s'échauffent et la colère monte. Il faudra l'intervention des responsables du syndicat pour calmer le jeu et isoler les plus bruyants. Manuel, agriculteur dans les Ardennes, a du mal à cacher sa déception.
On n'a rien eu, ce qu'il nous a annoncé. C'est ce qu'il nous a annoncé depuis des mois. Et là, on n'a rien obtenu. Mais au niveau du prix, de nos charges, qui montent, et le prix qui ne monte pas. Quoi. Et puis toutes les normes, on n'est pas défendu par notre représentant, pour moi. Pour l'ensemble, je pense que l'ensemble du groupe, nous, on n'est pas entendu.
Olivier, éleveur lui aussi dans les Ardennes, est amer. Il a le sentiment d'avoir été manipulé.
On était instrumentalisé, et puis voilà, donc on nous prend pour des pions. On nous amène en bus, vous écoutez et vous repartez. Voilà. Si vous êtes content, tant mieux. Si vous êtes pas content, ben tant pis. Et puis vous attendrez la suite.
Finalement, les tracteurs repartent en direction de la province. Seuls quelques irréductibles ont annoncé vouloir remonter les Champs-Élysées en signe de protestation.
De Paris à Pékin, il n'y a que quelques milliers de kilomètres, mais nous faisons fi des distances dans cette émission. Direction la Chine, donc, Joris, Stéphane, la Chine et l'Afrique, avec la présence ces derniers jours du président soudanais El-Béchir dans la capitale, Heike Schmidt.
Contrairement aux us et coutumes diplomatiques qui en courent en Chine, aucune photo n'est apparue dans la presse officielle montrant la poignée de main entre Omar al-Béchir et le président Xi Jinping et aucun éditorial n'a loué les relations entre les peuples. Signe de l'embarras que Pékin éprouve face à son hôte traité de paria par la communauté internationale. Pas sûr. C'est déjà la 4e fois que Pékin déroule le tapis rouge pour le président soudanais. « Vous êtes un vieil ami de la Chine », a dit un Xi Jinping tout à son aise. La Chine et le Soudan sont comme deux frères. Depuis les années 90, le grand frère chinois n'a pas hésité à fournir armes et munitions au Soudan en profitant au retour du pétrole soudanais abondant. Aujourd'hui, la Chine est le premier partenaire commercial de Khartoum et aucun autre pays du monde n'investit autant dans les infrastructures du pays. Ces 20 dernières années, Pékin aurait ainsi financé des projets pour un total de 9 milliards d'euros. Mais ralentissement économique oblige, Pékin doit freiner ses dépenses, un casse-tête pour Khartoum qui directement dépend de la croissance chinoise.
Alors de Paris, nous sommes repartis à Pékin, c'est logique, nous parlons de l'Asie dans cette émission, suite d'une semaine d'actualité. Alors Joris Zilberman, je rappelle que vous êtes le directeur de la publication et rédacteur en chef de ce site, ce tout nouveau site Asialiste. Je voudrais revenir sur la philosophie, entre guillemets, qui est la vôtre, c'est-à-dire de faire appel à des spécialistes à Paris, mais aussi surtout sur le terrain, comme on dit.
Mais absolument, puisque notre philosophie, c'est la familiarité avec le terrain. Et ceux qui peuvent être basés à Paris, c'est des gens qui reviennent du terrain ou qui y vont régulièrement. C'est ça que les gens attendent. Ils attendent cette familiarité, une connaissance de la culture, un ressenti, puisque si on parle de philosophie, c'est quoi le sens d'Asialiste ? On va pas faire connaître l'Asie. Et d'ailleurs, je j'ai jamais rencontré quelqu'un qui pouvait se targuer de dire « je connais l'Asie ». Non, on a vécu là-bas, on a travaillé là-bas, on a un ressenti. C'est ça qu'on veut transmettre au gré des publications, des articles, des chroniques, des enquêtes, c'est ce ressenti.
Alors, nous avons dans ce studio un invité surprise, en quelque sorte, Sébastien Farcy, que les auditeurs de RFI connaissent bien, que vous écoutez, je dirais pas tous les jours, mais très souvent sur cette antenne, vous qui suivez cette émission ce matin. C'est votre avis aussi que, vous avez répondu oui à la demande de collaboration d'Asialist.
Ah, immédiatement, je suis correspondant.
Et pour quelle raison, précisément ?
Depuis 4 ans en Inde et en Asie du Sud, donc Sri Lanka, Bangladesh, Népal. Je suis basé à New Delhi, donc depuis 4 ans. Et avant ça, pendant 5 ans aux Philippines, j'ai eu une certaine connaissance, une petite expertise donc de l'Asie sous ses différentes couleurs, sous ses différentes formes. Et ce qui m'a intéressé énormément, c'est d'abord bien sûr qu'on a affaire à un nouveau média, des nouvelles possibilités de Internet, des infographies, de l'explication par d'autres moyens, par des liens, un accès aux sources directement à travers des sites anglophones qui sont en Inde, mais aussi et ça c'est vraiment en complémentarité avec RFI dont je suis vraiment très fier aussi, c'est une complémentarité l'approfondissement, l'analyse. Quand on est sur place, il y a énormément de choses qu'on n'arrive pas à expliquer à travers la radio, et c'est ça qu'on trouve en fait. Je pense que c'est vraiment ce que recherchent aujourd'hui les gens à travers Internet. On a accès à beaucoup d'informations directement, très crues, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Comment mettre ça en perspective sur un sous-continent aussi divers, aussi large que l'Inde, le Sud asiatique et l'Asie en général, la collaboration, la confrontation entre l'Inde et la Chine, la confrontation entre l'Inde et le Sri Lanka, par exemple. Et là, par exemple, sur des choses assez pointues comme le climat, on sort cette semaine, donc lundi, une explication assez détaillée. Sur Asialist, bien sûr, on sort une explication de la position indienne par rapport à la conférence de l'ONU de Paris de la fin de l'année. Et donc ça, c'est quelque chose qui est assez difficile à expliquer en quelques mots. Il faut, voilà, j'ai eu recours à un expert qui connaît très bien la chose à New Delhi et qui nous décrypte qu'est-ce que ça veut dire, le changement climatique et comment il faut s'adapter quand on est en Inde.
Alors, puisqu'on parlait de la France il y a quelques minutes avec les agriculteurs, Joris Zilberman, est-ce qu'il est difficile de parler de l'Asie quand on est en France, en fait, parce que l'Asie, pardonnez l'expression, c'est loin de Paris.
Tout dépend de l'actualité. S'il y a une actualité qui fait miroir avec l'actualité en France ou en Europe, c'est plus simple. C'est tout ce qui nous arrive quand on a l'ambition de créer un média qui va de Tokyo à Islamabad. C'est qu'évidemment, il y a un prisme français qui s'intéresse peut-être davantage à la Chine qu'à l'Inde, par exemple. Et c'est là où on veut rééquilibrer. Et la Chine, de fait, est plus présente dans la vie des Français, parce que la communauté chinoise en France, parce que la théâtralisation des hommes d'affaires ou de l'État chinois, du Premier ministre chinois qui vient avec les gros sous voir s'il va ou non racheter la Grèce ou l'Espagne. Donc, ce qu'on essaye de varier, parce que c'est l'angle d'approche. On souffrait de ne devoir traiter l'Asie que sous un seul angle. Et on essaye de montrer qu'il y a d'autres angles qui permettent aussi de parler d'énormément de pays d'Asie dont on ne parle jamais dans l'actu très chaud des médias nationaux.
Stéphane Lagarde.
Parler de l'Asie en France, c'est compliqué parce que moi je m'en suis aperçu quand j'étais correspondant d'RFI déjà et puis de
les auditeurs s'en souviennent encore, hein.
En 98, donc c'était en Corée du Sud. Et là on s'est aperçu d'une chose, c'est que les Allemands par exemple, quand ils ont vu tomber le mur de Berlin, ils se sont aperçus que derrière le bloc de l'Est, il y avait l'Asie. Le Royaume-Uni, les Américains qui l'ont en face, ils connaissent très bien l'Asie. Ça donne à Pékin des bureaux de correspondants de presse pour le Wall Street Journal avec 25 personnes. C'est pas du tout le même monde. Le monde anglo-saxon s'intéresse de très près à l'Asie. En France, on est plus près de la Méditerranée, on s'intéresse beaucoup à l'Afrique, c'est normal, mais on a oublié parfois l'Asie. Donc là, voilà, nous on veut redonner aussi sa place à l'Asie, qui est un continent immense où il se passe tellement de choses. Voilà, c'est aussi ça qu'on veut donner, cette place juste à l'Asie dans l'Asialiste.
Alors on a commencé à parler de l'Afrique et de la Chine, on va continuer à parler de l'actualité africaine. Joris, vous, c'est aussi effectivement un continent, l'Afrique, dont vous parlez dans ce site.
Mais absolument, on va développer, je pense que nos amis citoyens des pays africains s'intéressent comme les Français, comme les Européens. Et ils ont des enjeux vitaux en Asie, en Chine, et nous on s'adresse à eux évidemment. Alors c'est vrai qu'on développe tout juste les contenus. On a, je salue d'ailleurs Alban Lalou qui est une experte des relations entre le monde chinois et l'Afrique et qui publie sur Asialist des articles assez pointus sur certaines parties ignorées du commerce ou de certains trafics d'espèces sauvages par exemple entre l'Afrique et la Chine ou de certains réseaux d'un continent à l'autre. On va développer tout ça et on s'adresse évidemment à nos amis africains, c'est une évidence.
7 jours en Afrique.
Et nous allons donc pendant quelques minutes développer l'actualité africaine. On reviendra évidemment en Asie dans un instant. Mercredi, à La Haye, s'est ouverte la première journée du procès de Bosco Ntaganda, l'accusé de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité en Ituri, dans le nord-est de la RDC, donc en 2002 et 2003. Correspondance ce jour-là de Pierre Benazé.
La première journée du procès de Bosco Ntaganda a été presque exclusivement consacrée à la présentation de l'accusation à son encontre. Le procureur s'est longuement étendu sur les atrocités perpétrées par le Front Patriotique pour la Libération du Congo, le FPLC. Bosco Ntaganda était alors le chef d'état-major de ces miliciens qui ont mené une campagne systématique de terreur et de violence contre tous les membres d'autres ethnies que la leur. Mais pour Fatou Bensouda, procureur de la Cour pénale internationale, les motivations ethniques ne représentent qu'un des aspects de ce conflit.
Il ne s'agit pas du procès d'une appartenance ethnique ou d'un groupe ethnique. Il s'agit du procès d'un individu, Bosco Ntaganda, qui a profité des tensions ethniques en Ituri à des fins personnelles pour accéder au pouvoir et à la richesse et qui, pour ce faire, a commis des atrocités.
Bosco Ntaganda est resté impassible à l'évocation des crimes qui lui sont imputés, mais le procureur entend bien prouver qu'il était le grand ordonnateur des atrocités commises entre 2002 et 2003.
Alors ce procès sera sans nul doute suivi dans un des villages où Bosco Ntaganda a sévi, le village de Ngongo, où s'est rendue notre correspondante en République démocratique du Congo, Léa Lisa Westerhoff.
Nous sommes là pour vous informer sur tout ce qui se passe à la Cour pénale internationale.
Serrés à 4 ou 5 sur des bancs d'écoliers, une soixantaine d'adultes écoutent attentivement. Nous sommes dans le village de Ngongo, quelques toits de chaume au bout d'une mauvaise piste. Ici, en février 2003, Bosco Ntaganda et ses hommes auraient attaqué le village dans leur conquête de Bounia. Résultat, quand on demande qui a été victime du chef de guerre, toutes les mains ou presque se lèvent et les langues se délient.
Tout le village a été brûlé. Sauf les maisons à Tol.
Ici, on a tué les gens, on a brûlé les maisons. Il y a eu des viols aussi. Ce sont des crimes qui nécessitent vraiment une condamnation exemplaire.
Car depuis 2003, pas de commission vérité et réconciliation, aucune réparation. Seule la CPI est venue 3 fois pour les besoins de l'enquête. Résultat, dans cette école aux murs en boue et toit de tôle, la soif de justice est grande.
Nous demandons la réparation, la paix et toutes les choses qui avaient passé, qui ne revient plus.
Nicolas Koyakou, chargé des activités de sensibilisation pour la CPI, confirme.
La population a plus besoin d'informations pour voir est-ce que la justice internationale et la justice nationale, quels sont les efforts qu'ils déploient pour mettre un terme à l'impunité. Parce qu'ils aspirent quand même à un monde sans crime, à un monde de paix, pour s'occuper plus des aspects liés au développement.
Un développement qui se fait toujours attendre dans une région pour l'essentiel agricole et où un groupe armé, le FRPI, reliquat des conflits interethniques des années 2000, harcèle toujours quotidiennement une grande partie de la population.
Alors pour vous qui nous écoutez à Kinshasa, sachez que vous pouvez suivre ce procès en direct et en public à Utex Africa dans la capitale congolaise. À noter aussi dans l'actualité africaine des manifestations d'opposants au président Nkurunziza à Bujumbura, la capitale du Burundi, et la mort d'au moins 50 soldats ougandais de la force de l'Union africaine en Somalie, tués lors de l'attaque de leur base par des islamistes Shebab.
Pour nous écrire par courriel, semaine.actu@rfi.fr.
Notre adresse électronique, merci pour vos messages, c'est la rentrée, rentrée des messages aussi. Bonjour d'abord à un fidèle de l'émission, Siradio à Ketaya en Guinée-Conakry. Un salut à Fousseni à Conakry, à Taïrou à Mopti, à Philémon à Goma, à Ousmane à Abidjan et mes salutations à Garance à Paris.
RFI.
Suite d'une semaine d'actualité en Afrique et un double attentat au Cameroun, jeudi, dans la localité de Kerawa, dans l'extrême nord du pays, à 1 kilomètre du Nigeria, correspondance de Polycarpe et Samba.
Kerawa, ville martyre située à moins d'un kilomètre de la frontière avec le Nigeria, avait déjà par le passé fait l'objet plusieurs fois du harcèlement des djihadistes. L'organisation État islamique de l'Afrique de l'Ouest, ex-Boko Haram, tenait de l'autre côté de la frontière l'une de ses positions, de laquelle elle lançait ses incursions sur le Cameroun. La fréquence particulièrement soutenue des attaques dans cette localité avait d'une part fini par contraindre les populations à déserter la ville, mais aussi obliger les forces de défense camerounaises à y établir un camp militaire. Kerawa vivait donc depuis des mois au ralenti jusqu'au retour récent des pluies qui peu à peu peu ont ramené les riverains qui y pratiquent des activités agricoles et pastorales. De plus, en cette veille de rentrée scolaire, l'effervescence a redoublé d'intensité dans la localité et le marché périodique qui s'y tient tous les jeudis avait réouvert ses portes. C'est dans ce contexte que le mouvement État islamique de l'Afrique de l'Ouest ex-Boko Haram a à nouveau frappé, perpétrant l'un de ses plus violents attentats en terre camerounaise. Entre Fort Kolo et Marwa et aujourd'hui Kerawa, ces attentats ont déjà coûté la vie à une centaine de personnes et fait plusieurs centaines de blessés.
Alors maintenant, sans quitter l'Afrique, nous allons nous tourner à nouveau vers la Chine, Joris Zibelman et Stéphane Lagarde, avec un rappel de l'implication de ce pays sur le continent, pas seulement dans le domaine économique, mais aussi sur le plan sécurité, en quelque sorte. Boniface Vignon.
Envoi de casques bleus au Libéria, au Sahara occidental, en Côte d'Ivoire et plus récemment au Mali, plus de 2,5 millions de dollars injectés pour l'équipement et l'entraînement du contingent ougandais de l'AMISOM, des équipements de communication tactique offerts au Kenya, l'implication croissante de la Chine dans les questions sécuritaires africaines est aujourd'hui remarquée, même si elle demeure toujours discrète. Il faut dire que depuis quelques années, la Chine s'est retrouvée exposée aux attaques terroristes sur le continent. On se souvient des attaques menées par Acme contre des convois de travailleurs chinois en Algérie et plus récemment des attentats de Nairobi impliquant les Chebabs somaliens où des ressortissants chinois ont été tués ou blessés. Des travailleurs pétroliers chinois sont également la cible des mouvements rebelles. Tout en assurant donc la sécurité de ses ressortissants et la sauvegarde de ses intérêts économiques, le pays rassure ses partenaires économiques africains tout en renforçant son prestige auprès d'eux. Mais alors qu'elle ne proposait pas de déploiement de soldats sur leur sol, une différence notable avec la France ou les États-Unis, la Chine est désormais intéressée par des bases militaires en négociation. Le port stratégique de Djibouti.
Suite d'une semaine d'actualité, nous revoici donc en Inde et nous revoici donc avec une partie de l'équipe du site, du tout nouveau site Asia Li. Stéphane Lagarde a un mot de commentaire sur cette collaboration Chine-Afrique en matière de sécurité.
Oui, ça fait longtemps que la Chine a la théorie de la non-ingérence, la fameuse théorie de la diplomatie chinoise, est pas abandonnée dans le discours, mais abandonnée dans les faits. Aujourd'hui, la Chine est le plus gros pourvoyeur de casques bleus, personne ne le sait, mais enfin, en Afrique, il y a énormément de casques bleus chinois ou ailleurs. On l'a vu aussi avec la Libye, 30 000 Chinois ont dû être évacués. Là, la Chine a pris conscience des risques, du risque africain et des risques qu'il y avait dans les pays en conflit, bien sûr, puisque la Chine est un des seuls pays aujourd'hui qui travaille, qui fait des chemins de fer et surtout dans le pétrole, qui travaille dans des pays où plus personne ne va. On parlait du Soudan tout à l'heure et donc souvent, maintenant, aujourd'hui, les ouvriers chinois sont aussi attaqués comme les autres. Donc il y a tout ce risque. Donc il y a évidemment un développement de la sécurité avec ces pays. C'est ça qui est des échanges de plus en plus et des ventes d'armes, évidemment, mais ça c'est non officiel.
C'est ça qui est intéressant, c'est que la coopération économique a conduit à élargir en fait l'offre, entre guillemets.
La Chine a compris vraiment qu'elle pouvait aussi avoir ce que disait Boniface, des attaques terroristes sur ses camps, sur ses camps de base, sur ses entreprises. Donc elle s'est mise aussi à développer ce côté sécuritaire.
Alors Joris, on va reparler de votre site. Je le redis, enfin vous avez commencé à le dire tout à l'heure, Joris Zibelman, la Chine n'est pas le seul pays de l'Asie. Évidemment, c'est la puissance, presque la superpuissance, mais vous ne parlez pas évidemment que de la Chine dans ce site. Est-ce qu'il est possible d'avoir toutes les informations que vous souhaitez sur la Chine aujourd'hui? On connaît les difficultés qu'ont les journalistes, vous le savez, vous avez été journaliste à Pékin, à travailler en Chine.
C'est une problématique qui a énormément évolué parce que alors à mon petit niveau je peux en parler parce que j'ai été correspondant pendant 8 ans en Chine, 3 ans et demi à Shanghai et 4 ans et demi à Pékin pour RFI et pour France 24 et ça a beaucoup évolué. Moi je suis de la génération des correspondants en Chine qui sont arrivés au moment des Jeux Olympiques où les conditions de travail pour les correspondants, pour les journalistes étrangers en tout cas en 2007-2008 se sont un petit peu libéralisées dans le sens où, je me souviens très bien, j'avais été pour l'affaire du lait contaminé en Chine, j'avais été dans un village à quelques kilomètres de Pékin, et là, pour la première fois, on n'était pas obligé d'appeler le parti communiste local pour leur dire « Salut, est-ce qu'on peut faire une interview ?» Donc, je suis allé interviewer les villageois, et là, le secrétaire du parti du village est venu me voir en me disant « Mais pourquoi vous m'avez pas appelé ?» Et là, je lui ai dit « Ben, simplement, votre ministère chinois des Affaires étrangères nous a dit, nous libéralisons les conditions de travail des journalistes. » Et donc là, il y a eu un petit conciliabule et j'ai pas eu de problème. Mais simplement, depuis quelques années, et je dois dire peut-être depuis l'époque des révolutions, des printemps arabes, là, il y a eu une extrême angoisse, nervosité du régime chinois qui a eu peur de la contagion entre guillemets de ces mouvements démocratiques, en tout cas de ces mouvements populaires, en Chine. Et donc, ça s'est traduit par une répression de la société civile chinoise. Nous qui, il y a quelques années, travaillions avec les principaux avocats des droits de l'homme chinois, ils sont pratiquement tous en prison. Cette répression des sociétés civiles chinoises, évidemment, se traduit par une nouvelle répression, en tout cas, une nervosité à l'égard des journalistes étrangers. Alors, c'est pas exactement l'époque de Mao où on connaissait qui, le correspondant de l'AFP, qui avait révélé l'affaire Lin Piao au début des années 70, qui voyait débarquer les gardes rouges, qui exiger de lui que il se rétracte. On n'en est pas encore là, mais maintenant il y a des menaces et qui se traduisent par des non-renouvellements de visas pour les journalistes étrangers basés en Chine.
Stéphane Lagarde. Et puis il y a des parties interdites en Chine encore aujourd'hui aux journalistes, même si tout est autorisé par définition, mais aller sur les plateaux tibétains et faire des enquêtes auprès des moines, des familles de moines qui se sont immolés par exemple, c'est risquer, si on a un téléphone portable encore allumé, de se faire rattraper par la patrouille qui vous dit il y a des chutes de neige, vous pouvez pas aller plus loin. Bon, on nous dit jamais officiellement vous pouvez pas y aller. Donc il y a des territoires comme ça, évidemment le Xinjiang, très grosse tension là-bas, les journalistes ont beaucoup de mal à travailler, et on le voyait, on l'a eu sur RFI, Shen Guanshen, on l'aura bientôt aussi en interview sur Asialiste, Shen Guanshen, le dissident qui est maintenant aux États-Unis, hein, l'avocat au pied nu, le dit, la société civile n'a jamais été aussi réprimée aujourd'hui, hein. Tous les avocats, effectivement, les écrivains même maintenant craignent d'aller en prison.
Alors revenons sur la démarche du site, la philosophie, toujours entre guillemets, Joris, il y a énormément de préjugés, d'idées reçues sur l'Asie comme sur d'autres continents d'ailleurs, mais peut-être plus d'ailleurs sur l'Asie. Et là, vous êtes là aussi pour les combattre, j'imagine.
Absolument, parce que non seulement on essaye de s'écarter des clichés, mais on est dans une perpétuelle tension entre s'écarter des clichés et ne pas devenir pro-gouvernement local. C'est-à-dire que certaines personnes, alors je laisserai la parole à mon ami Sébastien qui est basé à New Delhi, mais en tout cas je parle pour la Chine, certaines personnes disent les médias occidentaux via les agences ne couvrent que ce qui est négatif.
Or, ça, c'est le reproche adressé aux journalistes de façon générale.
Absolument, et à ça, nous on peut répondre que oui, on est d'une école de journalisme qui n'est pas un journalisme de la négativité mais de l'esprit critique. Alors c'est un gros problème en Chine parce que le mot critique, la révolution culturelle, c'est négatif et donc ça veut dire détester les Chinois. Les clichés à côté qu'on veut combattre, c'est la Chine, on peut en parler autrement que via la pollution, même si c'est des choses que nous qui avons vécu là-bas, on subit physiquement, on connaît bien, mais c'est pas seulement une espèce de positivisme ou de positivité béate sur la Chine qui est formidable et Xi Jinping qui est le leader charismatique. Et l'idée, c'est vraiment de rendre familier avec une certaine complexité de l'Asie.
Alors, à propos des préjugés, prenons un exemple, Sébastien Farcy, sur l'Inde, par exemple.
Mais sur l'Inde, c'est un très bon exemple, je pense, parce que l'Inde fascine, mais en même temps, tout le monde ignore plus ou moins de qui on parle. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de ces explications. Les frontières n'existent plus vraiment. On voyage en Inde comme on peut voyager aux États-Unis. Mais qu'est-ce qu'on comprend vraiment de l'Inde? Aujourd'hui, quand je viens ponctuellement en France, j'entends parler alors les viols, c'est si difficile. On entend parler aussi beaucoup de ces histoires horribles de la campagne indienne où en effet on force ou on condamne les femmes à être violées. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut comprendre le contexte. Il faut aussi comprendre qu'en dehors de ces campagnes, il y a des millions, des centaines de millions de gens qui vivent dans des villes de manière très moderne. La sexualité des jeunes femmes indiennes est très développée. On n'est plus dans une société arriérée, mais par contre on est dans une société diverse. Et je pense que un site comme Asialiste, qui est spécialisé sur l'Asie, peut permettre de prendre le temps. Et aussi, peut-être, parce que c'est à l'écrit, on peut expliquer de manière plus complexe quelque chose. Un RFI est plus général, va ouvrir des portes. Je pense que Asialiste peut confirmer, peut informer de manière plus précise et spécialisée.
Le Stéphane Lagarde.
Oui, alors moi, pour les clichés, par exemple, sur la Chine, moi, je me souviens, quand je suis parti en Chine, la première fois, on m'a dit, à Pékin, on m'a dit, tu vas manger des nems. Alors qu'on n'est pas au Vietnam ou dans le sud de la Chine. Par exemple, il y a tous ces clichés sur la malbouffe, hein. En Chine, on parle beaucoup de ça. J'avais un blog qui s'appelait Encre de Chine, le camion de pétard qui saute sur l'autoroute a fait beaucoup de clics, quoi. On va essayer d'éviter ça sur Asialiste. On n'est pas là pour faire du clic, on est là pour raconter les choses. Et sur la cuisine, par exemple, parce qu'on n'est pas non plus que des experts, des choses pointues. Allez lire quand même le site, c'est pas que des choses, tu vois, fatigantes ou trop. Il y a aussi, on parlera évidemment s'il faut de cuisine, on en parle d'ailleurs. On a Osaka Kitchen qui nous a ramené des choses du Japon, ils vont nous ramener des choses de Bangkok. C'est un couple qui fait des choses formidables et qui parle de cuisine sur Asialiste. Donc on est très ouvert, en même temps on essaye de pas tomber dans le cliché à chaque fois.
Un mot de conclusion, Joris?
En conclusion, ce qu'on peut dire d'Asiali, c'est que c'est pas seulement le projet de Stéphane Lagarde ou Joris Zilberman, c'est une plateforme collective où c'est des journalistes, mais c'est aussi vous qui vivez en Asie, c'est vous qui vivez en Europe ou en Afrique et qui travaillez avec des Asiatiques ou sur l'Asie ou qui avez envie de voyager, qui voulez vous développer. Ce site, c'est aussi le vôtre, c'est notre leitmotiv, c'est votre média sur l'Asie.
Alors, pour ceux qui l'ignoreraient, votre site s'appelle donc Asialist, avec un Y à la fin, hein, liste.
Absolument, c'est la contraction de Asia et Analyst.
Et Analyst. Merci, donc je recommande bien évidemment ce site Asialist. Merci d'être venu nous en parler. Merci à Sébastien Farcy. On vous entend souvent dans cette émission. C'était bien d'avoir un visage sur un nom aussi. Merci. Une semaine d'actualité réalisée par Sophie Janin. Je vous retrouve moi demain pour le magazine Idée à double titre, à la radio bien sûr à 17h10 heure de Paris et sur le site, parce qu'à partir de ce week-end je vous proposerai chaque semaine un article sur l'invité de l'émission, sur son livre ou sur un autre sujet, sur le site de la radio RFI.fr et à la page Idée de l'émission. Demain nous parlerons de l'éthique qui est un des mots à la mode aujourd'hui, l'éthique, avec le philosophe Marc Ougnadi. Bon week-end, bonne semaine, dans un instant un nouveau journal sur RFI. Take time.